Monseigneur Ayet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en ce temps de carême où nous allons parler aujourd'hui de l'actualité, bien sûr, avec la renonciation de Benoît XVI. Vous avez déjà réagi une première fois au micro d'Alexandre Aguerre, mais nous allons parler un petit peu plus précisément de ce pontificat, de ce pape que vous avez bien connu. Et puis nous reviendrons également sur le carême, qu'est-ce qui se fait dans le diocèse, qu'est-ce qui est prévu pour vivre ce carême jusqu'au 31 mars. Donc la renonciation de Benoît XVI, c'est cette semaine. C'est vrai que c'est une décision qui a été unanimement saluée comme courageuse de par vraiment la grande majorité des médias. Comment est-ce que vous expliquez que les commentaires aient été si positifs, alors que c'est vrai que pendant son pontificat, il avait été aussi parfois critiqué?
Oui, critiqué par qui d'ailleurs, hein? Critiqué sans doute par les médias. Et certains lobbies et certains groupes de pression à l'extérieur de l'Église et parfois même à l'intérieur de l'Église. Mais j'ai l'impression quand même que c'est toujours un peu anecdotique et que les médias font toujours un peu caisse de résonance et ont toujours intérêt à donner un peu plus de puissance à ces voix qui s'élèvent au sein ou en dehors de l'Église contre l'autorité, en particulier celle du pape. Car je vois surtout, à travers tous ces voyages apostoliques, et en particulier à travers l'impact qu'il a eu sur le peuple de Rome, on le voit à travers les audiences générales du mercredi, le traditionnel Angélus aussi du dimanche, et en particulier en ce moment, on l'a vu aussi d'une manière tout à fait tangible lors des JMJ de 2011 à Madrid, qu'il y a quand même une très grande affection du peuple de Dieu en profondeur, toute génération confondue, et j'avais été très touché par cette vague d'affection qui portait le Saint-Père par au cours des JMJ de 2011. Et on le voit en ce moment, dans ces dernières apparitions, il y a vraiment une véritable affection. Hein. Je pense que les médias ont été pris de court, comme toujours, et c'est vrai que cet acte et cette décision du Saint-Père les a tellement pris de court que disons que la thèse habituelle qu'il développait d'un monarque qu'est le pape accroché à son pouvoir a été complètement démenti d'une manière magistrale, mais nous a tout simplement conforté et confirmé dans la manière dont il a toujours vécu comme un service son ministère pétrinien. C'est une décision courageuse, mais pour moi, ça n'est pas une décision mondaine qu'on peut expliquer à travers une grille de lecture qui serait en effet extérieure à la foi, qui ne peut être d'ailleurs que la grille de lecture des médias. C'est une décision inspirée qu'il a discernée, comme il l'a dit très simplement encore hier au cours du dernier Angélus qu'il a prononcé depuis la fenêtre de son bureau. C'est une décision qu'il ressent comme un appel du Seigneur à poursuivre sa mission d'une autre manière, en particulier dans la prière.
Finalement, ça correspond au personnage, à ce pape peut-être réfléchi, différent du pape précédent. Enfin, finalement, est-ce que cette décision est si étonnante?
Non. Quand on connaît bien Benoît XVI, non, même si on a quand même été tous surpris, parce que c'est une décision tellement personnelle pour une charge qui demeure quelque chose de très unique et singulier dans l'Église. Il reçoit sa mission du Christ directement, dont il est le vicaire. C'est une charge qui est complètement intemporelle, donc qui n'est pas soumise à échéance humaine, comme d'autres missions, y compris celle de l'évêque, qui reçoit sa mission du pape et donc qui remet sa mission entre les mains du pape. Mais c'est vraiment tellement singulier qu'on a pu être stupéfait. En même temps, quand on connaît le personnage, tellement effacé dans son humilité devant celui qu'il représente au sens de celui qu'il rend présent au sein de l'Église, c'est-à-dire le Christ lui-même qui seul gouverne son Église et vraiment le pasteur suprême de son Église, ça ne nous étonne pas. Et en même temps, c'est la signature de son pontificat, lui qui n'a eu de cesse de tourner les regards tout au long de son pontificat par un enseignement extrêmement lumineux vers Dieu, j'allais dire qui a été son obsession, c'est sa passion, Dieu, Dieu, Dieu. Et là, il nous invite à regarder vers Dieu et il s'efface devant Dieu. D'ailleurs, lui-même va se consacrer complètement à la prière.
Difficile de revenir sur 8 années de pontificat en quelques minutes, Monseigneur Ayet, mais commençons peut-être par la relation que vous-même avez eue avec le pape Benoît XVI, puisqu'il vous a appelé à être évêque.
Voilà, alors c'est vrai que comme tout fils ou fille de l'Église, j'ai forcément le sentiment de, d'une filiation par rapport au Saint-Père. Hein. Vous savez que si on dit le Saint-Père, ça n'est pas pour canoniser le pape, mais en tout cas pour montrer que cette fonction, ce charisme, qu'on appelle le charisme pétrinien, celui du successeur de Pierre, eh bien c'est une paternité sainte, hein, qui représente la paternité même de Dieu. Donc j'ai le sentiment d'être un sentiment de filiation, qui est accru par le fait que c'est lui, en effet, qui m'a nommé évêque, hein, même s'il ne me connaissait pas. Et c'est à travers forcément des enquêtes de ses collaborateurs. Mais il n'empêche qu'il m'a choisi et je l'ai rencontré aussi, hein, à plusieurs reprises, à l'occasion de tout simplement d'audience du mercredi, où les évêques se placent toujours à côté du pape et on a la possibilité de le saluer. Hein. Et puis je l'ai rencontré aussi un petit peu plus personnellement encore au cours de la visite à Limina. Donc, oui, j'ai une profonde affection, qui fait partie d'ailleurs du charisme de l'évêque, hein, qui est appelé à être en communion, comme on dit, affective et effective avec le successeur de Pierre, qui est le chef du collège apostolique dont je fais partie. Et j'ai toujours été marqué à travers ces rencontres, et déjà avant d'être évêque, j'avais eu l'occasion de le rencontrer à la congrégation de la Doctrine de la Foi, par son humilité, sa douceur. Hein, tout le monde le dit, mais quand on l'approche, on est très frappé qu'à la limite, il est à l'écoute de celui qui est en face de lui. C'est lui qui nous remercie d'être là. Et il a une attitude d'une grande simplicité qui est une manière d'empathie, qui est de se mettre vraiment au niveau de celui qui est en face de lui.
En 2007, vous avez été un des premiers, en tout cas par un livre, à saluer le motu proprio summorum pontificum qui permettait donc la libéralisation de la messe selon Saint Pie V.
Alors ça n'était certainement pas par, par goût personnel, puisque moi je ne suis pas né dans cette forme dite extraordinaire du rite romain et que je n'ai jamais célébré avant de devenir évêque, où j'ai pu à l'occasion le faire pour des fidèles qui font partie de l'Église et qui sont confiés à ma sollicitude pastorale d'évêque. Je l'ai salué comme un événement liturgique, parce qu'il m'a semblé que ça n'était pas seulement une concession faite aux dits traditionnalistes, que ce n'était pas seulement peut-être une réparation, la réparation d'une certaine injustice pour ceux qui étaient restés attachés à ce missel alors qu'il n'avait jamais été de fait abrogé. C'était une manière peut-être de provoquer, à travers la cohabitation de ces deux formes de l'unique rite romain, comme dit le pape Benoît XVI, de provoquer un mutuel enrichissement qui permette de redécouvrir dans notre forme ordinaire, qui est celle que j'assume quant à moi comme évêque de l'Église catholique romaine, de favoriser une sorte de reprise de conscience de la centralité et de la sacralité de la liturgie.
La liturgie qui doit permettre de rencontrer Dieu.
Voilà, la liturgie, comme on le dit, c'est le service du peuple pour le peuple, mais comme le signale le catéchisme catholique, et c'est souvent rappelé par le pape Benoît XVI, ce peuple de Dieu a ceci de particulier qu'il est constitué par une action de Dieu. Donc la liturgie, c'est d'abord l'action de Dieu. Hein, c'est l'action du Christ, mais du Christ total. Donc c'est aussi l'action de l'Église, qui est un peuple rassemblé par le Christ et qui offre un acte de culte à Dieu et qui provoque nécessairement un dépassement du visible vers l'invisible, de notre vie quotidienne profane vers le mystère de Dieu, de ce monde vers le Père, à travers la Pâque, le mystère pascal, qui est précisément ce que l'on célèbre dans la liturgie. Donc le Saint-Père a toujours insisté dans la liturgie pour dire « La liturgie, c'est le primat de Dieu et de l'adoration dans la vie de l'Église. » Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, la liturgie est d'abord l'action du Christ, l'action de l'Église comme corps du Christ, et c'est essentiellement une prière, c'est une relation à Dieu.
Concernant l'œcuménisme, Benoît XVI a été sensible à l'unité durant tout son pontificat. Avec les orthodoxes, les rapports ont été plutôt bons. Avec les protestants, est-ce que ça n'a pas été plus complexe? Où est-ce que ça en est? Est-ce qu'on peut faire un bilan de ce pontificat concernant l'œcuménisme?
Alors c'est vrai que comme il l'a dit dans son homélie le lendemain même de son élection, à la chapelle Sixtine d'ailleurs, au cours de la messe qu'il a célébrée, la première messe au milieu des cardinaux qui venaient de les lire, Il a rappelé que l'engagement œcuménique était irréversible et serait certainement une marque importante de son pontificat, qu'il a été en effet. Hein, et on a vu des avancées très certaines avec les Anglicans. Alors on dit, c'est vrai qu'il a accueilli, après un temps de longue patience d'ailleurs, hein, un groupe d'Anglicans assez important, dit traditionnels, au sens où ils étaient sans doute déjà plus proches des catholiques que la High Church habituelle. Et c'est vrai qu'il a aussi eu des relations avec les Anglicans qui ne sont pas demandeurs de rentrer dans le giron de l'Église catholique. Il a fait avancer aussi les relations avec eux, qui ont été très apaisées, même à travers ce geste. Avec l'orthodoxie, en particulier avec le patriarcat de Moscou. On avait déjà des relations très bonnes avec le patriarcat œcuménique de Constantinople, mais c'était plus difficile avec Moscou, qui est en rivalité d'ailleurs d'une certaine manière avec le patriarcat de Constantinople.
Il ne l'aura pas rencontré d'ailleurs finalement.
Il ne l'aura pas rencontré à Moscou. Il aura rencontré quand même le numéro 2 de l'église orthodoxe de Moscou au Vatican. Hein. Et les relations se sont beaucoup, beaucoup apaisées. Et on l'a vu dans ces derniers temps en particulier, peut-être qu'un pape polonais pouvait être sociologiquement un obstacle à des relations apaisées avec le patriarcat de Moscou. Un pape allemand facilitait les choses, mais surtout l'engagement œcuménique intellectuel de Benoît XVI pouvait permettre aussi des rapprochements qui sont bien avancés. Avec les protestants, c'est toujours plus difficile, bien sûr, hein, parce qu'il y a plus de distance entre la réforme protestante et l'Église catholique. Cependant, j'ai le souvenir de ce beau discours qu'il a prononcé au couvent d'Erfurt le 23 septembre 2011, lors de son voyage apostolique en Allemagne, et qui est le lieu où Luther a célébré sa première messe, hein, dans ce couvent augustinien, car, comme vous le savez, il a cessé de ses études de droit pour faire des études de théologie et marcher vers le sacerdoce. Et il a beaucoup insisté en ramenant son auditoire à la question primordiale de Luther, qui était la question de Dieu, et qui était la question de savoir s'il pouvait avoir un Dieu miséricordieux. Et en ramenant au cœur même de la préoccupation de Luther, il a rappelé que dans l'œcuménisme d'aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que nous nous retrouvions dans ce qui nous unit plutôt que dans ce qui nous divise. Et ce qui nous unit, c'est quand même la révélation de Dieu à l'homme, le Dieu de Jésus-Christ et le Dieu du salut. Et donc c'est une manière finalement de recentrer le dialogue. J'ajoute un élément dans cette recherche œcuménique du Saint-Père. Il y a une idée dont il ne s'est jamais départi depuis qu'il est jeune théologien. C'est l'idée que l'unique Église du Christ, l'Église universelle, qui est nécessairement unie, se réalise concrètement à travers une diversité d'églises particulières. Vous voyez, c'est comme ça qu'il accueille un groupe d'Anglicans qui décident de se rattacher au siège de Rome, mais avec leur rite liturgique, avec leur tradition spirituelle. Vous voyez, s'il y a un rapprochement avec les orthodoxes, il est fort probable qu'il aurait dit pourquoi les orthodoxes ne seraient pas une incarnation de l'unique Église du Christ, à partir du moment où il y a une vraie communion, même si on peut encore discuter sur le sens de la primauté romaine. Vous voyez, ça c'est tout à fait l'optique de grande ouverture de ce pape qui est vraiment le pape de l'unité et le pape de la réconciliation.
Pour le dialogue interreligieux aussi, Benoît XVI a œuvré notamment avec nos frères aînés les juifs dans la foi, et puis il y a eu aussi le discours de Ratisbonne qui n'a pas été toujours très bien compris.
Voilà, alors le discours de Ratisbonne, pour des raisons que j'ignore, a provoqué un déchaînement médiatique et qui n'a pas, au contraire, empêché le dialogue avec les musulmans, comme on l'a vu d'ailleurs très vite après. C'était, à mon avis, très anecdotique, surtout que lorsqu'on lit bien ce discours, c'est un discours universitaire, c'est un discours qui est extrêmement documenté sur le plan historique et qui cherche précisément toujours à établir le lien entre la foi et la raison. Et en disant qu'une foi ou une croyance qui n'est plus régulée par la raison ou fondée dans la raison humaine, qui est aussi un don de Dieu, est une foi, une croyance qui peut devenir un fondamentalisme et qui peut engendrer la violence. Voilà. Et donc c'était un discours très important qui, je crois, a été aussi fondateur pour un dialogue interreligieux avec les musulmans.
Autre dossier qui a marqué le pontificat de Benoît XVI, c'est bien sûr le dossier pédophilie. Il a eu le courage de mettre les pieds dans le plat, si on peut dire ainsi. Là aussi, quel est le bilan de son action pendant ces 8 années?
Alors, vous voyez, le pape Benoît XVI, c'est vraiment le pape de la vérité, hein, que l'on atteint par la raison, éclairé par la foi. Et ça a forcément des conséquences aussi au niveau de la communion dans l'Église et de la discipline de l'Église qui s'appellera alors transparence. Et c'est vrai que ce dossier de la pédophilie qui encombre l'institution ecclésiale comme beaucoup d'autres institutions, il s'y est attelé depuis longtemps, déjà comme préfet de la Congrégation protestante de la foi, où il y avait été déjà attentif, mais il n'était pas le pontife romain, et sans doute que Jean-Paul II a été moins actif sur ce dossier. Et évidemment, quand ce dossier a éclaté en pleine figure, ben c'est lui qui était le successeur de Pierre. Et il a pris les choses à bras-le-corps avec beaucoup de vérité, hein, d'authenticité, sans crainte que l'Église puisse être éclaboussée par ces dossiers, parce que pour lui, l'Église a toujours à se réformer et a toujours à se purifier dans ses membres. Et le plus grand obstacle à la transmission de la foi, qui est la mission même de l'Église, eh bien, c'est justement ce manque de cohérence, ce manque de transparence et les péchés de ses membres, qui nous renvoient d'ailleurs à nos propres péchés et qui nous invitent toujours plus à la conversion.
Pour Mgr Marcaillé, il y a aussi la main tendue aux lefébristes. Cette main, est-ce qu'elle a été saisie?
Alors c'est difficile à dire. Je pense qu'il a fait avancer la cause en essayant de, comme un père, hein, dans le souci, et de rassembler tous ses enfants au sein de la famille unie. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il s'en va sur un échec. Mais vous savez, c'est encore l'humilité de ce pape qui ouvre des chantiers, qui a des désirs de faire avancer des choses, mais qui est tellement abandonné entre les mains de la providence divine que il s'efface même lorsque le chantier n'a pas été terminé, confiant que son successeur reprendra les choses. D'ailleurs, lui-même n'a fait que reprendre ce que son prédécesseur, le pape Jean-Paul II, avait initié, hein, par rapport au lefébriste, même s'il en a été déjà sous Jean-Paul II un des instruments privilégiés en tant que préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Cette main a-t-elle été prise? Ça, je ne suis pas dans les secrets, hein, de ces discussions entre les lefébristes et le Saint-Siège. Je crois qu'il y a quand même des avancées. Je crois que le rapport et la relation n'est toujours pas rompu. Je pense que le Saint-Père nous a toujours habitués à être dans l'espérance par rapport à toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer. On peut en effet demeurer aussi dans l'espérance.
Beaucoup de chrétiens saluent en tout cas le bon professeur Joseph Ratzinger, devenu le pape Benoît XVI. On n'a pas le temps ici de détailler tous ses écrits, notamment les encycliques qu'il a publiées en étant pape. Mais nous allons écouter quelques réactions de chrétiens qui ont été recueillies par Marie-Claire Hulataguère à la sortie de la messe de midi. C'était le jeudi 21 février.
Qu'il a été intelligent de s'arrêter.
Moi, j'ai une très bonne image de notre pape. Je trouve qu'il a gardé la foi comme on doit la garder. Et puis, bon, maintenant, il se trouve plus fatigué et tout ça. Je trouve que c'est normal qu'il arrête, puisqu'il ne peut plus continuer. Il sent qu'il n'est plus possible de continuer. Donc, je trouve que c'est très bien comme ça. Qu'on aura un très bon pape nouveau qui continuera dans ce qu'il a commencé déjà. J'espère que maintenant l'Église va revenir un peu plus normale, comme il faudrait que nous soyons tous. Une Église normale, c'est une Église qui suit Jésus-Christ et qui suit vraiment ce que Dieu a demandé, ce que Jésus a demandé. C'est pas tellement tout ce que nous voulons, nous, mais ce que le Seigneur demande, voilà.
Une image d'humilité, de bonté et de simplicité. Je l'approuve parce que c'est une forme de courage aussi, de se dire, je ne peux plus et donc j'arrête.
Je le trouve d'une clarté extraordinaire dans toute sa parole et puis d'une très grande humilité. J'admire beaucoup. Et bien de quelqu'un qui avait une très grande culture, une très grande intelligence et, comme je vous dis, une très grande humilité.
Que pensez-vous de la décision qu'il a prise de démissionner?
Elle est très courageuse et très humble.
Écoutez, le représentant du Christ.
Vous pensez qu'il a beaucoup apporté à l'Église?
Ah oui, énormément même. Énormément.
C'était quand même un grand homme. Voilà. Au début, sa démission, c'est vrai qu'honnêtement, j'ai trouvé que c'était lâche. Et puis, je suis revenue à ma décision et j'ai trouvé que finalement, oui, c'est du courage parce que, avec le monde actuel, tous les problèmes qui se posent, je pense qu'il est fatigué pour répondre à tout ça.
Quelle image retiendrez-vous de son pontificat ?
Mais il a quand même beaucoup aidé Jean-Paul II vers la fin, donc je pense que nous, il a une très bonne image. Une très bonne image, un homme de prière, voilà. Mais je pense qu'il a été un peu dépassé quand même. Pour moi, il a été dépassé, c'est pour ça qu'il ne peut pas, vu qu'il était déjà malade, parce que les questions de l'église, le mariage, je pense que c'est très très lourd, là.
Je veux dire que j'ai une image de père pour nous tous et j'ai été très surprise de sa décision, mais à la fois aussi très admirative et très respectueuse. Je trouve que c'est vraiment une image de beaucoup d'humilité et beaucoup de respect sur sa place, sur sa fonction, j'ai trouvé ça très très beau. Je suis admirative. L'image de quelqu'un de courageux dans les gros dossiers, les gros chantiers qu'il a pris à bras le corps, qui étaient des chantiers très très lourds et très douloureux et avec qui il a pris vraiment d'une manière très fidèle.
Alors j'ai une image très positive. Alors moi je fais partie de la génération des Jean-Paul II et c'est vrai que quand il était arrivé à l'époque, j'étais un petit peu inquiète et finalement je suis tombée admirative de ce pape parce que je l'ai découvert en particulier à Lourdes lorsqu'il était venu et j'étais profondément touchée par l'humilité, la simplicité et la foi de cet homme. Après, je fais confiance aussi à ce choix et je comprends aussi par rapport à son âge. Je respecte complètement. Je me dis, en plus, c'est une belle leçon vis-à-vis de ceux qui ont le pouvoir parce que parfois, il y en a qui s'accrochent à leur siège. Et lui, c'est vraiment un très grand geste d'humilité. Et quelque part, je retrouve ce que j'avais déjà ressenti à l'époque à Lourdes.
C'était un grand homme. Il est sérieux. Il a tenu ses promesses pour le moment.
Pensez-vous justement de sa démission ?
Je pense pas du bien parce que c'était un grand monsieur. J'aurais aimé qu'il reste. Bon, je sais qu'il a démissionné, mais qui va le remplacer ?
Qui va le remplacer, Monseigneur Marcaillet, ses réactions donc s'achèvent sur cette question. On va pas ici faire des pronostics, prendre les paris. Mais vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez comme pape pour les années qui viennent ?
Moi, je ne ferai aucun pronostic et le souhait, c'est Dieu qui l'a. Hein, c'est Dieu qui fait les papes. Je pense qu'en effet, le Saint-Père, vu la diminution de ses forces physiques et psychologiques, a pensé que pour gouverner la barque de Pierre, comme il l'a dit lui-même dans sa déclaration d'ailleurs, en cette période un peu troublée de l'histoire du monde et de l'Église, où des épreuves s'abattent aussi sur l'Église et risquent de s'abattre un peu plus, à l'extérieur de l'Église et peut-être même à l'intérieur de l'Église, eh bien, il a été appelé au fond de lui-même, il a discerné cette situation, en proportion de ses forces qui diminuaient, comme une nécessité pour lui de préparer une succession qu'exige l'heure, si vous voulez. Et je pense que, il indique par là qu'il faut qu'il y ait un homme qui ait suffisamment de vigueur du corps et de l'esprit et qui soit essentiellement un homme de foi, et qui soit surtout très loin de toutes les intrigues mondaines qui, quelquefois, on le sait bien, atteignent même l'Église, qui est aussi une société faite d'hommes. Donc je pense que c'est à travers son acte, c'est un acte prophétique, et qui est une indication sans doute aussi pour le conclave, afin que l'homme qui sera suscité par le Seigneur, selon l'élection des cardinaux, soit vraiment un homme de foi, un homme de prière, un homme qui sera vraiment à l'écoute de la parole de Dieu pour conduire l'Église comme il convient, selon le cœur de Dieu.
On reste avec Benoît XVI qui nous a justement donné un élan pour ce carême dans son message « Croire dans la charité suscite la charité ». Benoît XVI fait le lien entre foi et charité. Expliquez-nous ce qu'il a voulu nous dire. Il n'y aurait pas de charité sans la foi et il n'y aurait pas de foi sans la charité.
Alors bien sûr, comme vous savez, les trois vertus théologales ne sont très unies et indissociables les unes des autres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que ce qui caractérise le chrétien premièrement, contrairement à ce que l'on dit habituellement quand on pose cette question, et on pourrait faire un micro-trottoir aussi pour cette question fondamentale de la vie chrétienne, on dit c'est aimer son prochain. Je dis non, c'est pas d'abord ça qui est caractéristique de la vie chrétienne. Ce qui est caractéristique de la vie chrétienne, c'est la foi. La foi comme relation d'amitié avec le Christ, la foi comme adhésion de tout soi-même au Christ qui nous a été révélé par Dieu et qui est une manifestation authentique de Dieu dans la vie des hommes et dans l'histoire des hommes. Et cette foi au Christ, cette foi qui favorise cette union au Christ, est source de charité authentique. Et alors, en effet, on pourra dire que l'amour du prochain, qui peut aller jusqu'à l'amour des ennemis, jusqu'au pardon des offenses, et ça, c'est pas forcément une valeur communément admise dans la société des hommes, même si on est très ouvert aux autres, très tolérant, et qu'on prétend être au service de son prochain, eh bien ça devient la vraie marque de fabrique du chrétien. Et cette charité authentique nécessite la foi. Et de même que la charité est vraiment la vie de la foi, comme dit saint Paul. Et donc, si tu n'as pas les œuvres, ben tu n'as pas la foi, comme dit aussi saint Jacques. Ta foi est morte si elle ne vit pas par la charité. Donc la charité est aussi, c'est ce qui rend crédible la foi du chrétien. Et d'une certaine manière, dans ce message, le pape nous dit, la charité comme vie de la foi, c'est pas seulement secourir son prochain comme un bon samaritain, et c'est d'abord ça bien sûr, et on le sent bien dans notre carême à travers tout ce que nous appelons les gestes de partage, hein, que nous suscitons, que nous suggérons aux chrétiens en ce temps de conversion, mais c'est aussi donner Dieu aux hommes. Et dit, il n'y a pas de plus grand acte de charité que de donner le Christ aux autres. Et donc c'est là aussi où vous voyez comment la foi et la charité ne font qu'un.
Dans beaucoup de paroisses, il y a des propositions pour ce carême de l'année de la foi. Il y a des conférences aussi à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne sur le Concile Vatican II. Est-ce que vous avez connaissance de ces initiatives et qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux chrétiens finalement pour bien vivre ce carême?
Alors je crois qu'il y a pas mal d'initiatives qui naissent toujours dans les paroisses. J'imagine que la démarche Diaconia 2013, qui arrivera d'ailleurs à son terme au moment de la fête de l'Ascension cette année, suscite des gestes de partage. Ainsi, on a bien compris ce que c'était que cette démarche. Elle devait déboucher sur des gestes concrets pris en charge par les communautés chrétiennes en tant que telles, et plus seulement à travers les campagnes de carême qui sont organisées par tel ou tel organisme caritatif, comme le CCFD en particulier. Je crois que ça, c'est une première indication dans les paroisses pour vivre ce carême. Ensuite, comme nous sommes dans l'année de la foi, pour célébrer le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II, je sais qu'il y a des groupes aussi qui s'organisent, par exemple au Christ Sauveur de Pau, et dans toutes les paroisses qui le désirent, à partir d'un petit livret qui était confectionné par l'abbé Dufaux, l'abbé Aramburu et l'abbé Nouvelle, pour permettre de réfléchir sur les implications dans notre vie du Concile Vatican II. Puis il y a des conférences qui sont organisées, comme vous avez dit, à la cathédrale de Bayonne tous les dimanches de carême. Et puis il y a des récollections aussi, il y a des retraites. Par exemple, l'organisation Coto Pais des Jésuites organise et propose aux paroisses des semaines d'exercices spirituels. Ça s'est fait à Oloron, je crois que ça s'est fait aussi à Cambo et dans d'autres paroisses. Il y a des prêtres qui vont certainement pendant le carême, par zone, se réunir pour des journées de récollection. Les catéchistes vont aussi organiser une journée de récollection. Vous voyez, il y a toutes sortes d'initiatives dont j'ai connaissance ou pas, mais je suis sûr que le carême provoque toujours des initiatives qui sont liées eh bien, aux grandes organisations de l'heure. L'année de la foi, le Concile Vatican II, Diaconia 2013.
Qu'est-ce que vous pensez, Monseigneur, des retraites qui sont proposées sur Internet, comme par exemple la retraite dans la ville proposée par les Dominicains?
Alors c'est sûr que dans une époque dite de la génération Y, où l'on passe en France en moyenne 2 à 3 heures devant son ordinateur, c'est une excellente manière de rejoindre les gens et de leur permettre, dans une vie qui est extrêmement agitée et qui est sans cesse en forme de zapping permanent, eh bien je pense que c'est très très heureux comme moyen pour rejoindre les gens dans leur vie, que de leur proposer par Internet un temps de recueillement, de méditation, et même à travers des forums, j'ai vu, des échanges et des partages. Donc c'est tout à fait d'actualité.
Le dimanche 24 février, Monseigneur Ayer, vous avez appelé 16 catéchumènes du diocèse qui recevront lors des fêtes pascales les sacrements de l'initiation chrétienne, c'est-à-dire le baptême, l'Eucharistie et la confirmation. Alors le 3 février, il y avait justement une journée pour ces catéchumènes, là, vous les avez reçus individuellement. C'est important de les connaître par leur nom et par leur prénom.
Oui, c'est très important qu'ils sentent, non seulement à travers leurs équipes d'accompagnement, souvent un prêtre, le curé de leur paroisse, et des fidèles hein, qui sont autour d'eux, et des accueils aussi dans la grande communauté paroissiale, c'est très important aussi qu'ils sentent que leur entrée dans l'Église intéresse l'Église d'une manière plénière à travers le lien à l'évêque. Hein. Les sacrements de l'Église chrétienne, comme vous le savez, reviennent normalement à l'évêque, qui délègue évidemment au curé de paroisse d'administrer ces sacrements parce qu'il est le pasteur du diocèse. Et il m'a semblé très important d'avoir un contact plus que, j'allais dire, superficiel. Jusqu'à présent, je les rencontrais pour une soirée où ils se présentaient, bon, et puis je les voyais le jour de l'appel décisif. Nous avons, avec le catéchisme diocésain, cette année organisé une journée de récollection entière qui m'a permis non seulement de les voir tous ensemble, de célébrer avec eux, mais aussi de les voir individuellement, puis de partager le repas avec eux. Et aussi cette journée des appels décisifs qui a été effectivement un très grand moment pour la vie du diocèse à la cathédrale de Bayonne. J'ai pu leur parler le matin des sacrements de l'initiation chrétienne, avec non seulement les catéchumènes, mais aussi leur famille qui était autour, leurs parents, parrains, marraines, qui ne sont pas forcément toujours très très proches de l'Église, et qui ont aussi participé à cette belle journée ecclésiale. Et je peux vous dire que tout le monde était ravi, et moi le premier. Hein, au cours de cette belle célébration, il y a eu un très beau témoignage d'une accompagnatrice de catéchumènes, et il y a eu un très beau témoignage d'une catéchumène, qui se trouve, pour la petite histoire, être née au même lieu que moi, à Paracou, au Bénin, hein, et d'un père musulman. Elle est de la paroisse Sainte-Marie du Hameau à Pau. Et quand je l'ai vue, je lui ai parlé dans sa langue, une petite expression que je savais, que mes parents m'avaient apprise. Et elle m'a dit, c'est la première fois en France que j'entends quelqu'un parler dans ma langue.
Oh, Monseigneur Hayé, cet accueil et la formation de ces catéchumènes, c'est-à-dire de ces adultes qui demandent le baptême à l'Église, ça fait partie aussi de la nouvelle évangélisation?
Ah oui, oh combien, hein. Ils sont vraiment aux premières loges. On voit bien que ces catéchumènes, bien, pourquoi ils frappent à la porte de l'Église? Chacun son histoire, hein, elle est unique. Mais souvent, c'est parce qu'ils ont rencontré un chrétien, parce qu'il y a eu un événement important qui leur a fait connaître l'Église. Et donc, de fait, c'est vraiment l'Église qui appelle à travers ces médias, je dirais, que sont les chrétiens dans la vie. Et qui les font venir à l'Église. Il y a tout un accompagnement qui est tout à fait au cœur même de la nouvelle évangélisation. Le Saint-Père, dans son discours à la Curie romaine en décembre dernier, en revenant sur le synode de la nouvelle évangélisation, a pris comme instrument de synthèse de ses travaux du synode la rencontre de Jésus avec les premiers disciples. Il a dit qu'il y a trois gestes qui définissent la nouvelle évangélisation. Il y a la simple annonce, puis l'écoute, puis l'accompagnement catéchuménal dans l'Église. On est en plein dans la nouvelle évangélisation.
Et ça permet aussi peut-être de réveiller les communautés paroissiales où il y a des personnes qui demandent de baptême.
Alors ça, c'est le témoignage que nous font tous les accompagnateurs qui sont émerveillés par ce que le Seigneur fait dans le cœur de ces gens qui viennent de loin. Et ça a comme effet boomerang, en effet, de ressusciter cette flamme de la foi initiale, quoi, hein. Du baptême de chacun.
Un dernier mot, Monseigneur, sur la messe chrismale qui aura lieu cette année à Oloron-Sainte-Marie le 25 mars. Quelle importance revêt cette messe pour un diocèse? Est-ce que vous appelez aussi tous les laïcs à y participer?
Bien sûr, hein, comme chaque année, on a maintenant une journée sacerdotale qui commence par le repas festif du midi, suivi d'un temps de partage et d'échange entre les prêtres, et la messe chrismale à 18h pour permettre aux laïcs aussi, si c'est possible, en grand nombre, d'y participer. Parce que la messe chrismale, c'est la messe du peuple de Dieu qui manifeste tous ses charismes et tous ses ministères dans la communion autour de l'évêque, hein, qui est le principe de la communion, la bénédiction de l'huile des catéchumènes et de l'huile des malades, comme la consécration du Saint-Crème, eh bien, sont là pour signifier, manifester la totalité du peuple de Dieu dans la diversité de ses membres et dans la complémentarité de tous ses membres au sein de l'Église, en particulier du sacerdoce ministériel des prêtres et du sacerdoce commun des fidèles.
Merci Monseigneur Hayé, bon carême à vous.
Voilà, nous vous retrouverons après la Semaine Sainte et nous aurons certainement un nouveau pape.
Voilà, nous aurons un nouveau pape.